Merci, bonjour à tous. Je suis content de ces précisions pour pas qu'il y ait de malentendus. Je suis heureux que ça soit fait. Ça vous évitera de confondre. Si vous êtes vraiment déçus, je vous autorise encore à prendre la porte. Si jamais, on peut prendre un petit moment ensemble, je vais faire en sorte que vous ne soyez pas trop déçus. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Je répète, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Voilà, on est un peu gêné, j'ai pas entendu trop de « Amen » dans la salle. Pourtant, c'est sur ce genre de versets sur lesquels on peut tomber dans la Bible et en particulier dans l'Ancien Testament. Ce genre de phrase dans la Bible pour lesquelles on ne dit pas « Amen » et « Alléluia » très rapidement. Et c'est vrai que Il y a des psaumes des psaumes de joie, de reconnaissance. On était dans ce genre de psaumes la semaine dernière avec le culte de départ du pasteur Guy Gentilson. Et là, on va entrer dans un psaume qui n'est pas du tout du même genre, qui est ce qu'on appelle un psaume dit imprécatoire. Oula, je vous fais peur, hein, n'est-ce pas? Vous allez voir. Alors je vous invite à la lecture du psaume 137 avec moi. Sur les bords des fleuves de Babylone, ou comme diraient nos amis anglais, by the rivers of Babylon, hein, comme le chant connu le dit, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. J'avais oublié de tourner. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen ou pas amen? Petit amen. Alors, c'est ce que je vous propose de voir à travers ce psaume 137. On va parler un petit peu des psaumes imprécatoires. Ce genre de psaume nous met mal à l'aise, heurte quelque peu notre sensibilité. Et c'est vrai qu'on n'aime pas les lire. Si on a une lecture suivie dans le psautier, on se retrouve vite gêné face à un psaume imprécatoire, ou comme on va le voir, certains psaumes ne sont pas des psaumes imprécatoires en eux-mêmes, mais contiennent quelques formules imprécatoires. Alors, qu'est-ce que j'entends par imprécatoire et imprécation? Eh bien, c'est une formule de malédiction qui est proclamée sur les ennemis du peuple de Dieu, souvent de la bouche donc du peuple de Dieu, on profère une malédiction contre quiconque s'oppose à son plan. Pourtant, l'imprécation, on va le voir, est fortement présente dans le psautier. Si on compte nos psaumes, on en a combien de nos psaumes? 150. Certains estiment qu'il y a environ 100 psaumes qui contiennent des formules imprécatoires, soit 2/3 du psautier qui contient en tout ou partie des formules imprécatoires. Donc en fait, c'est une dimension très importante des psaumes, et pour autant, elle nous dérange et on ne sait pas toujours comment l'articuler. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Face à cette importance quantitative, que faire de ces psaumes qui nous dérangent? Comment les articuler avec notre lecture de la Bible aujourd'hui et avec notre théologie plus généralement? Savons-nous pourquoi ces psaumes sont prononcés? Et ce qu'ils expriment, au fond, c'est bien ça qui nous intéresse. Ils expriment tout d'abord, selon moi, la souffrance d'un peuple. Et la souffrance d'un peuple exilé. Vous savez qu'entre 597 et 581, ça c'est un bel exercice hein, pour les Français, hein, 597 et 581, le royaume de Juda va subir une déportation. Il va subir une déportation en 3 temps en Babylonie. hop, on va prendre tous les chefs religieux, tous les chefs politiques, parce qu'on prend l'élite de la population, et on la déporte loin, et comme ça, le peuple qui reste, s'il en reste une partie, se retrouve complètement déboussolé. Le meilleur moyen, c'est de prendre les chefs politiques et religieux, économiques, etc. Et donc, on va déporter une partie de la population en Babylonie. Et là, sur les bords de l'Euphrate, près des fleuves, nous dit le texte, on va se souvenir de Sion. Pourquoi est-ce qu'on va se souvenir de Sion ? Eh bien, parce qu'en 587, Jérusalem va être détruite. Est-ce que vous remettez un petit peu le contexte, disons, historique et, j'ai envie de dire, sentimental qui est derrière ce psaume ? On se souvient de Sion parce que ces gens-là, ces Babyloniens qui nous ont déportés et ont en plus détruit notre royaume et ont détruit Jérusalem. Bon, nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Cependant, il faut savoir une chose. Jérusalem n'est pas simplement la capitale du royaume du Sud, de Juda. Jérusalem, c'est la ville de quoi ? Je vous écoute. De David, certes. Et qu'est-ce que faisait David ? Il régnait, il louait Dieu où ça ? Dans le temple. Amen. À Jérusalem se tient le temple, et le temple est saccagé, le temple est détruit. Cependant, nous on a du mal à se l'imaginer, mais à l'époque, les Judéens sans temple n'ont plus aucun moyen de louer Dieu. Il n'y a pas de judaïsme sans temple à l'époque. C'est comme si vous, on vous retirait la prière et vos bibles et qu'on vous demandait de louer Dieu. Eh bien c'est la même chose, à l'époque, il n'y a pas de judaïsme sans temple. Donc on vient tout simplement de détruire leur raison même de louer Dieu, d'adorer Dieu, en détruisant ce temple-là. Donc c'est quelque chose de très fort et que les Judéens vont vouloir exprimer là. Mais la souffrance ne va pas être... Pardon, j'en oublie de passer les slides. La souffrance ne va pas être le seul lot de ce peuple à cette période de l'histoire, on le sait. Le peuple juif a énormément souffert dans toute la période, dans toute l'humanité, avec son apogée au XXe siècle, avec la Shoah, ce désir d'exterminer le peuple juif de la surface de la terre. Mais je pense que si on voulait aujourd'hui transposer cette souffrance-là, eh bien je pense que le peuple aujourd'hui qui souffre le plus, le peuple, eh bien c'est le peuple de Dieu toujours, à savoir les chrétiens de la terre qui souffrent à travers le monde, cette église dite persécutée. Si, pour vous donner quelques chiffres, 12 chrétiens sont tués chaque jour. Dans 50 pays du monde, 100 millions de chrétiens sont persécutés. Juste quelques chiffres, quelques indicateurs pour mettre des chiffres sur des notions qu'on brasse de temps à autre, des chiffres qui font froid au dos. Eh bien, c'est à ces chrétiens que nous voulons nous associer ce matin, à cette détresse, et pour lesquels nous prierons tout à l'heure. Alors, on en a parlé un petit peu, faisons-nous partie de cette même église. Faisons-nous partie de cette église qui est persécutée ? Alors, on en a dit quelques mots en introduction. L'essence même de l'église, elle se trouve dans la souffrance. Le fait même d'être témoin, et témoin en grec dans le Nouveau Testament, comment on le dit ? Eh bien, on le dit par martyr, martyros en grec. Le fait même d'être témoin, c'est d'être martyr. La souffrance est à l'origine même de l'église. Et si je vous pose la question maintenant, si on ramène à l'échelle locale, savons-nous qui dans l'Assemblée souffre aujourd'hui ? Savons-nous ceux qui passent par des moments difficiles, parce que l'Église persécutée n'est pas que au loin. Je pense que nous pouvons, nous aujourd'hui, vivre des difficultés et vivre des souffrances en lien avec une sorte, forme de persécution que nous n'avons pas à minimiser, mais que nous avons, je le crois, à exprimer au sein de l'Église. Ose-t-on exprimer nos souffrances ? Ose-t-on dire quand ça ne va pas dans l'Église ? Bonjour, comment tu vas ? Oui, ça va. On répond gaiement ça va, alors que qu'est-ce qui s'est passé juste avant que nous entrions dans l'Église ? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu chamaillé avec notre conjoint ? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu embrouillé avec nos enfants ? Est-ce qu'on ne vient pas avec de lourds fardeaux dans l'Église et qu'on ne sourit bêtement, j'ai envie de dire, hein, devant nos frères et sœurs pour ne pas montrer que ça ne va pas. Parce que si jamais je montrais que ça ne va pas, je vais avoir le droit à des questions, je vais avoir le droit, ça va être l'enquête. Et puis je me réfugie derrière un beau sourire. Ose-t-on exprimer nos souffrances et est-ce que nous sommes prêts, nous, en tant qu'Église, à accepter la souffrance de nos frères et sœurs? C'est la question que je nous pose ce matin. Vous n'allez pas me faire croire qu'on vit dans le monde des bisounours, si j'ose l'exprimer ainsi, dans lequel tout nous va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas ça. L'Église n'est pas non plus une bulle aseptisée dans laquelle on rentre et puis tout va bien et puis on sort, tout va mal. Je ne pense pas et je ne pense pas que c'est la vocation de l'Église. L'Église non plus n'est pas une sorte de club hein, dans lequel on se convainc les autres que tout va bien, ni encore moins une sorte de club du rire sur fond de louanges musicales. Je ne crois pas que c'est la vocation même de l'Église. À l'exemple de ce psaume, je pense que chacun d'entre nous est appelé à exprimer sa souffrance lorsque ça ne va pas, à dire les choses qui nous tracassent, à dire les choses qui nous tiennent attachés, qui font qu'on est réellement dans ce monde, on n'est pas dans une bulle. Alors, dans la suite du texte, on peut lire ça. « Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, nous disent les Babyloniens. » Et les Juifs de répondre « Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Ici, eh bien, c'est assez simple. On se moque clairement de ces Juifs exilés à qui on demande de proclamer des psaumes de Sion. Bien pourquoi? Parce que les psaumes de Sion, qu'est-ce que c'est normalement, ces psaumes de Sion? Je vous pose les questions. Il ne faut pas que vous vous endormiez, hein, donc je pose des questions. Oui, c'est la louange. Louange, reconnaissance, effectivement. On peut en lire un dans le psaume 46, par exemple, vous avez des psaumes de Sion. Donc c'est un type de psaume qui décrit la grandeur, la puissance de Jérusalem, qui sert d'image pour décrire Dieu, sa puissance, sa sécurité, etc. Et bien là, les Babyloniens leur demandent quoi ? De chanter des psaumes de Sion. Réjouissez-vous, Judéens, réjouissez-vous de ce que Jérusalem est grande, de ce que Jérusalem est fortifiée. Sauf que le problème, comme je l'ai dit, c'est que Sion n'est plus. Il n'y a plus de temple à Sion. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Leur demander de chanter des psaumes d'allégresse et de joie, célébrant la grandeur du temple, alors qu'il n'y a plus de temple. Ce sont ceux précisément qui ont rasé le temple de Jérusalem qui demandent aux Juifs de célébrer la beauté et la grandeur de la ville. Alors, quelle va être leur réaction ? Eh bien, elle va être double et paradoxale, à mon sens. Tout d'abord, ils vont demander au Seigneur son aide. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, alors mettez Jérusalem, hein, parce que Jérusalem ou Sion ou le temple est aussi une image pour décrire, pour parler de Dieu, tout simplement. On pourrait dire, si je t'oublie, Seigneur, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de toi, mon Dieu, le principal sujet de ma joie. Là, ce qu'ils vont faire, eh bien, ils vont adapter un chant de Sion, un cantique de Sion, aux circonstances de l'époque. Ils vont dire au Seigneur, « Si je t'oublie, Seigneur, que ma droite m'oublie, si je t'oublie, si j'en oublie même la raison de mon existence, si j'oublie que tu es le créateur de ma vie, eh bien, que je ne sois plus sur cette terre. » Ils savent vers qui se tourner et à qui demander le secours. Ce ne sont pas, ils ne vont pas se mettre à chanter des cantiques de Sion tout simples et tout niais, qui se mettraient à exalter sur fond de louanges. Non, il nous est dit qu'ils accrochent leur harpe et adaptent un cantique de Sion aux circonstances. Ils vont ensuite exprimer leur haine, et c'est ça qui va nous intéresser ensuite. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasé, rasé jusqu'à ses fondements, fils de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur les rocs. » Alors, dans un premier niveau, ce qu'on peut dire, c'est que ces Juifs savent exprimer leurs sentiments. Ça paraît être le premier niveau, hein. On va voir ensuite, on va voir comment est-ce qu'il faut interpréter tout ça, mais toujours est-il que moi, ça me surprend. Ces Juifs-là savent dire ce qui ne va pas. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas depuis très longtemps, très très longtemps en Suisse, hein, mais je me permets quelques remarques en tant que Français immigré. je trouve que des fois, hein, on est un peu dans un consensus mou, hein, où tout le monde va bien, dans le meilleur des mondes. Et je pense, alors je ne fais pas mon français chauvinard, hein, j'aime beaucoup la Suisse, hein, énormément, et j'aime ma femme, mais je me permets de dire ça parce qu'elle n'est pas là. Elle est avec les ados. Mais je trouve que des fois, il semble que tout va bien, alors que ce n'est pas la réalité. Ces juifs-là savent dire quand ça ne va pas, allant même jusqu'à dire qu'ils veulent voir leur ennemi exterminé. Allez, soyons honnêtes, 2 secondes, j'avais pas prévu de le dire ça. Vous êtes au rond-point à Nyon ou je ne sais où, et puis vous avez quelqu'un qui vous double par la droite. Vous êtes, vous, votre voiture, sur votre vélo, en roller, peu importe. Ah oui, voilà. En général, c'est un Français, et c'est juste, c'est vrai. C'est bien relevé. En général, c'est un Français. C'est vrai, c'est bien relevé. Allez, peu importe, mettons de côté qui c'est. Je suis d'accord, mais mettons de côté qui c'est. Quelle va être votre réaction ? Entre nous, hein, pas devant le pasteur, pas devant moi, pas devant l'assemblée des croyants réunis. Quelle est votre réaction, honnêtement ? Vous pestez, mais oui, hein ? Et honnêtement, si vous le voyez arrêté au bord parce que sa voiture fume, je ne sais pas, il manque de l'eau, 200 mètres plus loin, quelle va être votre réaction ? Celle-là, vous allez vous mettre à rire, hein ? Vous allez vous dire, eh ben, c'est bien fait pour lui quand même, hein ? Il m'a doublé, alors sans qu'il arrive quelque chose de dramatique, hein, mais juste que sa voiture se mette à fumer 200 mètres plus loin. Eh bien, honnêtement, si on fait appel à notre instinct, à ce qui bouillonne en nous, hein, si j'ose l'expression, eh bien, on va se réjouir quelque peu de voir cette personne-là arrêter 200 mètres plus loin. Eh bien, quand c'est noir, il faut savoir le dire à Dieu. Alors, que penser de la formule d'imprécation, à proprement dit ? Que penser de cette formule de malédiction proclamée sur les Babyloniens, hein, que les enfants soient écrasés sur le roc, bon, ça ne fait pas plaisir à dire. Alors c'est choquant, certes, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Si l'on replaçait un instant ces paroles dans la bouche de quelqu'un persécuté, mais quand je dis persécuté, je parle de vraiment persécuté, quelqu'un qui souffre, quelqu'un que l'on martyrise, quelqu'un à qui on fait subir des tortures, si l'on remet déjà ces paroles dans la bouche de quelqu'un qui souffre terriblement, est-ce que ça ne prend pas des colorations différentes que si on le lit tranquillement dans notre canapé et qu'on vit, encore une fois, dans une bulle déconnectée du monde ? Est-ce que ces paroles-là ne prennent pas une autre coloration ? Moi, je le pense. Et une autre question qui se pose, c'est celle de savoir si notre désir de justice, parce que c'est bien ça, hein, ce Français qui nous double sur la droite, c'est pas juste. Eh bien, c'est de savoir si ce désir de justice qui est en nous peut aller jusqu'à une demande plus ou moins consciente de voir notre oppresseur rendu à l'impuissance. La voiture qui fume. Peut-on, en tant que chrétien, espérer ça ? Alors vous allez me dire, oulala Anthony, tu vas loin. Je pense que ce désir est atténué par notre volonté de l'amour de l'ennemi, dans le Nouveau Testament. Hein ? Nous sommes invités à aimer nos ennemis, et je le crois. Mais cela, selon moi, n'en demeure pas moins une vraie pulsion naturelle. Et cette pulsion est précisément notre besoin de justice qui vient en réponse au mal de notre monde. Pour le dire autrement, ces psaumes, selon moi, sont le cri de gens qui souffrent terriblement. Supprimer ces psaumes, et ça a été une des tentations dans l'histoire de l'Église, un certain pape, Paul VI, voulait retirer de nos Bibles toutes les formules imprécatoires et tous les psaumes imprécatoires. Ça a été une des tentations dans l'histoire de l'Église de retirer ces psaumes qui nous dérangent. Eh bien, pour moi, les supprimer serait nier la souffrance des victimes et, quelque part, se mettre du côté de leur bourreau. Plus généralement, ce serait nier la réalité du mal et du péché. Alors, pour nous aujourd'hui, comment articuler la prière contre les ennemis de ces psaumes et la prière pour les ennemis, la prière en faveur de nos ennemis à laquelle nous exhorte le Nouveau Testament ? Peut-on lire et prier ces psaumes aujourd'hui ? Eh bien, je dis oui. Sauf qu'il faut faire une transposition. Une transposition qui consiste tout d'abord à faire des ennemis de Dieu une sorte de représentation, une analogie des puissances spirituelles mauvaises, et notamment l'adversaire, le Satan, cet accusateur qui est à l'origine du mal. On peut alors tout à fait s'associer à un texte du Nouveau Testament, qui est celui d'Éphésiens 6:12 que vous connaissez par cœur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On peut aussi opérer une deuxième transposition en lisant ces textes, qui consiste à faire des ennemis de Dieu une représentation des défauts naissants en nous, du mal qui naît en nous, auquel nous laissons place jour après jour. On pourrait ainsi relire l'imprécation du psaume 137 que nous avons lu tout à l'heure, qui disait « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc », un peu de la manière suivante. Heureux qui saisit tes enfants, on ne va pas le relire de la même manière. Heureux qui saisit les racines du mal qui naissent en lui et les écrase sur le roc. Alors c'est bien, mais a-t-on tout dit avec ça? Que fait-on de toutes les personnes qui commettent le mal, de ces agents du mal? Qu'est-ce qu'on en fait? Ces personnes sont-elles hors de cause, une fois pour toutes, une fois que l'on a dit que l'origine du mal se trouve en Satan? Eh bien, on aimerait bien. Mais hélas, ce n'est pas le cas. On peut transposer ces psaumes, mais pas complètement. Dans le livre des Actes, souvent on dit, oui, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur, un Dieu terrible, alors que dans le Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'amour, etc. Je ne pense pas que les choses soient si simples que ça. Regardez dans le livre des Actes. Ce n'est pas l'Esprit qui a animé Judas pour trahir Jésus qui est maudit par le psaume 69, mais c'est Judas lui-même qui est maudit en acte 1-20. Judas lui-même en tant que personne. Ce sont aux Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ que Paul applique également la malédiction du psaume 69, une malédiction très personnelle. On peut encore penser à la malédiction de Pierre et Paul sur les deux magiciens, Simon et Élimas, en acte 8 et en acte 13. Eh bien oui, en réalité, il n'est pas facile de dissocier le mal de celui qui le commet. Alors, quel appel pour les persécutés aujourd'hui? Quel appel pour nous dans nos vies, on vit des choses parfois difficiles dans nos familles, à l'école, on peut subir des formes de persécution, des formes de moquerie, un petit peu comme ces Babyloniens à qui on demandait de chanter des psaumes de Sion. Combien de fois on vous a dit, dans nos familles non chrétiennes ou quoi, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu, toi qui adores le Dieu Tout-Puissant? Où est-il? Alors quel est notre appel? Je pense que humainement parlant, nous ne pouvons pas pardonner nos ennemis ou les ennemis du peuple de Dieu. Et ça serait injuste de le faire, de pardonner tout simplement d'un trait ceux qui persécutent nos frères et sœurs dans la foi, comme ça. C'est pas nous qui le pouvons, mais c'est le Christ crucifié qui le peut en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous pouvons ainsi le dire avec lui. Eh bien oui, pourquoi? Parce que le Christ a pris la malédiction qui revient à ces personnes. Il est ainsi devenu malédiction, nous dit l'Épître aux Galates, à la croix. Mais parce que Jésus, justement, est devenu malédiction, nous pouvons bénir ceux qui font le mal sans pour autant minimiser la gravité et la nocivité du mal. Jésus a porté cette malédiction, donc nous pouvons tout simplement les bénir sans enlever rien au mal qui est commis. J'aimerais vous inviter à la lecture d'un texte d'un théologien, Dietrich Bonhoeffer, qui résume bien, selon moi, ce que l'on vient de dire jusqu'à présent. Aujourd'hui encore, ce n'est qu'à travers la croix du Christ, à travers la mise en œuvre de la vengeance de Dieu, que je peux croire à l'amour de Dieu et pardonner aux ennemis. La croix de Jésus concerne tout le monde. Quiconque s'y oppose, quiconque altère la parole de la croix de Jésus, doit subir la vengeance de Dieu, doit porter la malédiction de Dieu dans ce temps-ci ou dans l'autre. Le Nouveau Testament parle en toute clarté de cette malédiction qui s'abat sur ceux qui haïssent le Christ. Et sur ce plan, il ne se distingue en rien de l'Ancien Testament. Mais il parle également de la joie de l'Assemblée de Dieu au jour du jugement dernier. C'est ainsi que Jésus crucifié nous apprend à dire de façon juste les psaumes de vengeance ou de rétribution. Ainsi, je le pense, la croix joue un double rôle pour nous aujourd'hui. Jésus crucifié assume en sa personne, en son corps, la vengeance de Dieu contre le mal, on l'a dit. Il nous libère ainsi de cette exigence de vengeance. Lui-même le porte, donc nous n'avons plus à nous venger et à ressentir ce sentiment. De plus, Jésus est pour nous un modèle de conduite face au mal, comme le dit la première épître de Pierre. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et je pense finalement que nous sommes également et surtout invités à porter notre regard plus loin, à porter notre regard vers ce temps où il n'y aura plus ni cris, ni pleurs, ni douleurs, car Satan n'aura plus d'emprise sur ce monde. Il y aura ce temps est devant nous. Il n'y aura plus de persécution pour nous, mais aussi et surtout, peut-être, pour nos frères et sœurs dans la foi qui souffrent aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose que nous allons dire et que nous redisons dimanche après dimanche à travers la scène. Je m'explique. Nous redisons notre unité au corps de Christ par le pain. Certes, il y a bien plusieurs membres, mais qui sont membres d'un seul et même corps. Et nous sommes l'Église persécutée. Et si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nous annonçons enfin la mort et la résurrection du Seigneur, nous dit le texte, et ce, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur, et ce jusqu'à, oui, et ce jusqu'à ce qu'il vienne ou revienne. Nous annonçons sa mort, sa résurrection, le fait qu'il ait vaincu le mal, mais aussi qu'un jour il reviendra. Qu'un jour cette persécution n'aura plus d'emprise parce que le mal sera vaincu. Alors, je vous invite à peut-être un simple moment de musical pour réfléchir à ces paroles et que nous puissions nous laisser interpeller par le chant qui viendra par la suite. Amen.